Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit ? Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. Économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Matière-Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint et vous écoutez Matière-Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute. La période des fêtes approche. Et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan, c'est le site Twill, T-W-I-L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIRE, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100€, Twill vous offre une bouteille. Et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twill.fr, T-W-I-L.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits.
Hop, et bien c'est parti pour un nouvel épisode de MATIERLIRE avec Gabriel Jarrosson. Salut Gabriel.
Salut Alexandre, merci de me recevoir.
Ben écoute, merci pour ton temps et surtout, on a enfin réussi à caler une date. C'est vous qu'on a eu quelques petites péripéties d'agenda, de calendrier chacun de notre côté. Donc, c'est chose faite, on est enfin réunis, on peut enfin parler. Surtout que c'est le premier épisode de MATIERLIRE que je fais à distance. Donc, c'est aussi une bonne occasion de tester. Merci d'avoir répondu présent. Moi, je voulais faire un épisode sur l'investissement dans les startups que j'ai fait plusieurs fois avec certaines personnes que tu connais, mais notamment les startups étrangères, parce qu'on n'y pense pas forcément, ou quand on y pense, on ne sait pas comment faire. On ne sait peut-être pas juger est-ce que c'est une bonne opportunité, un bon marché, est-ce que c'est des bons fondateurs, les decks sont peut-être dans d'autres langues, etc. Donc je trouve que c'est très dur d'appréhender une opportunité d'investissement, qu'elle soit immobilière ou startup, hein, dans un autre pays, parce qu'on, par définition, on ne connaît pas, donc on a un petit peu d'inquiétude ou de réticence par principe, alors que c'est peut-être dommage. Du coup, voilà, je voulais orienter ça vers les startups de la Silicon Valley, mais peut-être de d'autres pays. Hein. Je crois que tu reviens d'Asie il n'y a pas longtemps, donc peut-être que j'imagine des opportunités dans ces pays-là aussi. Voilà, c'est tout ce qui est startup private equity un petit peu hors France, qu'on avait balayé un petit peu avec Mathieu Jarry du Club des Prophètes, notamment. On avait fait aussi
Capture. Ça a changé de nom, hein. C'est plus le Club des Prophètes. Ouais. Hein, ça s'appelle Moon, je sais pas quoi.
Moon Venture, effectivement.
Moon Venture, voilà.
Qui était très franco-français, mais très ancien, hyper passionnant aussi. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, au-delà des frontières. Si ça te va, bien sûr. Et je pense que t'as pas mal de choses à nous dire. Mais du coup, avant qu'on commence un petit peu à rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux peut-être. Parce que moi, je t'ai connu un peu par hasard notamment par le livre que tu as écrit là sur tes secrets d'investisseur. Et du coup, je me suis renseigné sur ce que tu faisais après, sur ton club, etc. Donc, il y a pas mal de sujets, mais peut-être qu'on va essayer de commencer un peu dans l'ordre, un peu chronologiquement. Donc, si tu peux un peu représenter ton parcours, comment t'en es arrivé à t'intéresser à ce secteur-là et puis ce que tu fais à côté avec tes secrets d'investisseur.
Ouais, carrément. Donc, merci encore. Très content d'être là. Pour qu'on discute de ça, donc moi, je m'appelle Gabriel Jarrosson. Je suis donc français et j'investis quasi exclusivement aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça, effectivement, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. J'avais plein de remarques déjà sur ce que tu disais, plein de réponses et tout, mais on va faire dans l'ordre. Donc, je me présente brièvement. Je suis ingénieur de formation. Puis, j'ai été entrepreneur très vite. En fait, j'ai jamais exercé le métier d'ingénieur. Dès mes études, j'ai monté des business. Quand je suis sorti d'école, j'étais entrepreneur. J'ai monté plein de business pendant plein d'années avec pas tant de succès que ça. Enfin, disons beaucoup, beaucoup d'échecs et beaucoup d'apprentissage. Hein. Quand on échoue, c'est très douloureux. On n'a pas envie d'échouer. On ne crée pas un business pour échouer. Et donc, on se regarde dans le miroir en disant pourquoi j'ai échoué, comment je fais pour éviter que ça se reproduise. Et donc, on apprend beaucoup. Et puis, quelques succès quand même. Je dis souvent, j'ai créé 7 startups et j'en ai vendu 3. Alors, le chiffre de 7 créés, en fait, on pourrait dire que j'en ai créé 10 ou 12 ou 15 ou moins que ça, parce que ça dépend ce qu'on appelle créer un projet. Si on bosse dessus pendant un week-end avec des copains et qu'on a un site web et qu'on fait 10 euros de chiffre d'affaires, est-ce que c'est une boîte ? Moi, je compte pas parce que c'est trop rapide, mais ça m'est arrivé de faire ce genre de truc. J'étais vraiment un passionné de création de business. J'en ai quand même donc vendu 3. Pas des très grosses ventes, aucune des 3, mais il faut quand même créer, tu vois, suffisamment de valeur et quelque chose de suffisamment robuste pour le vendre. Et puis, assez naturellement, je me suis tourné vers l'investissement dans les startups parce que j'avais toujours cette envie de créer des nouveaux business. Je me suis assez vite rendu compte que créer 5 business en même temps, ça n'avait aucun intérêt, c'était juste être sûr de rater les 5 business. Et donc, je me suis dit, si j'investis dans les business des autres, je peux essayer d'avoir le même type de résultats financiers, mais sans y passer de temps. Donc, je commençais à investir seul. Quand ça a bien fonctionné pour moi tout seul, il y a des gens qui, autour de moi, de mon entourage, des amis, de la famille, qui ont voulu investir avec moi. Et puis, donc, pour professionnaliser ça, en 2017, j'ai créé Léonis Investissement, qui est un club où je partageais mes investissements avec des particuliers. Ça a grossi pour devenir l'un des plus gros clubs français, plus de 700 investisseurs particuliers qui ont investi avec moi plus de 31 millions de dollars. Je parle en dollars donc, parce que maintenant, je dis qu'aux États-Unis, on a commencé avec la France. Et puis à partir de 2019-2020, on a opéré un virage vers la Silicon Valley. Et je termine ma présentation en disant qu'aujourd'hui, je continue à gérer Léonis Investissement, mais qu'en parallèle, j'ai aussi créé mon propre fonds d'investissement qui s'appelle Lobster Capital, qui investit également uniquement dans les startups de la Silicon Valley et du Y Combinator. Voilà pour mon profil.
Ok, bon, moi aussi, j'ai plein de questions dans l'autre sens. Hein. quand tu crées ce club, c'est quoi l'objectif ? C'est de dire, est-ce que tu pourrais le faire tout seul de ton côté, investir ? C'est partager l'info, c'est avoir accès à des deals peut-être différents parce qu'on est plusieurs derrière, donc c'est des montants plus gros. C'est quoi la motivation d'ouvrir ça avec d'autres personnes ?
Alors, au début, je commence tout seul. Effectivement, donc comme à l'époque, j'avais fait au début aucun de mes 3 exits. Et puis après, j'avais fait un seul de mes 3 exits. C'était un petit exit, donc j'avais récupéré un peu d'argent. Mais je ne suis pas en capacité de mettre des tickets à 50 ou 100 000, surtout si tu veux en faire au moins 3-4 par an pour te diversifier. Donc, il te faut 300 000 balles par an ou 200 000 balles. Sur 4-5 ans, il te faut 1 million. J'étais très, très loin d'avoir ce genre d'argent. Et donc, moi, je mettais des tickets à 1 000, 2 000, 5 000. Timidement, parfois 10 000, mais vraiment 10 000 pour moi, c'était vraiment très très dur et énorme, quoi. Je ne pouvais pas en mettre beaucoup. Et donc, ça me fermait beaucoup de portes. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais attends, 25, 30 000 minimum, 50 000 minimum. Ce qui est normal, un entrepreneur qui lève 3 millions, des tickets à 2 000, il s'en fout, quoi. Ça le fait pas avancer. Et donc, il y avait beaucoup d'entrepreneurs que je rencontrais qui me disaient, sur le principe, toi, Gabriel, comme personne, on veut bien t'avoir comme investisseur, mais par contre, 2 000, 5 000, non, c'est mort. Et donc, j'avais ce problème-là. J'investissais quand même de mon côté et je n'avais pas trouvé de solution. En parallèle, il s'est trouvé que j'avais quand même fait quelques investissements tout seul et j'ai eu quelques exits, ça se passait bien. Et donc, de plus en plus, j'ai eu des gens régulièrement qui me disaient « Mais comment t'as fait ? Partage-nous l'info. Dis donc, la prochaine fois, moi aussi, je veux bien venir avec toi. » Et donc, un jour, j'ai eu cette idée en me disant « J'ai ce problème de ne pas avoir assez d'argent, j'ai ces gens qui veulent investir avec moi, on va se réunir. » Donc, c'était vraiment dans mon propre intérêt personnel en me disant « Je pourrais effectivement accéder à des meilleurs deals. » Et puis, j'en fais partager des gens autour de moi. Au début, c'était quelques connaissances. Et puis, rapidement, je me suis dit, je peux en faire un business, une activité.
D'accord. OK. Donc, c'est vraiment la demande qui a créé l'offre et ce club. Et cette volonté de... Attends, juste avant une autre question, avant que j'oublie. Quand tu investissais 1000 ou 2000, du coup, qu'est-ce qui existait comme... Tu rentrais en direct parce que tu avais rencontré la bonne personne ou il y avait quand même des solutions aux États-Unis qui te permettaient de le faire?
Tout ça, c'est en France, au départ. Moi, je démarre avec la France. Je commence à investir en 2013, il y a 10 ans. Mon aventure américaine, elle débute en 2019, entre 2019 et 2020. Donc, de 2013 à 2019, moi, j'investis en France parce que j'habite à Paris. Et donc, étant moi-même entrepreneur, je fréquente un peu les réseaux d'entrepreneurs, mais pas les grands réseaux, les petits trucs, les soirées, les machins. Et donc, je rencontre effectivement la bonne personne, le fondateur. Et c'est comme ça, effectivement, que j'arrive à accéder directement. Donc, j'investis en direct, tout à fait.
Ok, d'accord. Et du coup, c'est la bascule justement à s'ouvrir du coup à l'international, elle est liée à quoi du coup à une rencontre, à une opportunité ?
Alors, il y a eu des rencontres après que j'ai provoquées, mais donc ça se passe en 2019 dans ma tête. Donc là, j'ai créé le club Léonis depuis 2 ans. Je commence à grossir, à faire des deals. Donc là, effectivement, on se réunit en 2019, je ne sais plus, on était 100 personnes dans le club. On commence à mettre des tickets à 80, 100, 150 000 euros. Et en fait, c'est vraiment drôle. C'est un matin, un beau matin, je me réveille. Ça m'est venu comme ça. En anglais, on dit épiphanie. En français, on dit, tu vois, la petite ampoule qui s'allume sur la tête, quoi. Et je me dis, mais attends, pourquoi j'investis en France? Donc moi, j'ai la chance de parler très bien anglais, de beaucoup voyager aux États-Unis, etc. Je regardais tout l'écosystème américain pour m'inspirer en me disant, bah, ça va nous servir en France. Et je me dis, mais pourquoi j'investis en France alors que j'investis dans les boîtes technologiques, les startups technologiques, les meilleures startups technologiques, tout le monde le sait, elles sont dans la Silicon Valley. Je me dis, mais attends, je suis quand même capable de prendre un billet d'avion, d'aller dans la Silicon Valley, je parle anglais, moi aussi, je peux le faire. Je me dis ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Et donc, je prends mon billet d'avion, mon petit sac à dos, ça, et je me pointe à San Francisco.
C'est ton côté ingénieur très rationnel, ça, je pense.
Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, tu vois, il n'y a même pas eu d'élément vraiment déclencheur de rencontre. C'est vraiment un matin, quoi. Je me réveille et je me dis, mais attends, pourquoi la France? Alors, c'est ça que je voulais réagir tout à l'heure quand tu avais ton intro, en disant, bah, y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à investissement startup ou investissement tout court, IMO, pensent à la France. Et donc, c'est ça, en fait, que je me suis dit, mais pourquoi forcément la France? Tu vois, la France, c'est un super pays. Je suis très fier d'être français. C'est un pays magnifique qui a plein de ressources, mais c'est pas le centre du monde. On est 65 millions, c'est-à-dire qu'on représente 4% de la population mondiale, ou même pas, ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est moins, c'est 1% de la population mondiale et 4% du PIB. Enfin, on est minuscule. Et par contre, à côté de ça, t'as un endroit sur Terre où toutes les boîtes, déjà en 2019, quand je fais cet raisonnement, Facebook, Uber, Airbnb, YouTube, Google, Amazon, nos smartphones, Apple, on passe nos journées à utiliser. Tu vois, on est sur Google Chrome, ça vient de chez Google, moi je suis sur un Mac, ça vient tout du même endroit, et c'est pas la France. Et donc je me dis, bah attends, moi je veux trouver des boîtes qui cartonnent, qui deviennent des géants mondiaux, des licornes et tout. Tu vois, en France aujourd'hui on a 27 licornes, à l'époque il y en avait moins. Aux États-Unis, il y a 900 licornes. Bah, ouais. Le calcul, il est vite fait, quoi. Voilà. Donc je me fais ce raisonnement-là.
Et est-ce qu'on sait d'ailleurs comment ça se fait qu'il y ait autant de licornes, du coup, dans ce pays-là? Alors oui, il est plus gros, donc statistiquement, il y a plus de chances que ça arrive. Mais est-ce que c'est l'ADN de l'Américain? Est-ce que c'est le...
Alors, il y a énormément de choses. Alors là, il y a énormément de choses. On pourrait faire juste une heure rien que là-dessus. Je vais essayer d'être synthétique. C'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments de réponse. Alors, le pays est plus grand, mais tu vois, il est à peu près 5 fois plus peuplé que la France. Et donc, ou 5 ou 6 fois. Donc, si tu multiplies nos 27 licornes françaises fois 5, ça fait 350. Et eux, ils sont à 900. Donc, ça justifie pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Alors, dans l'ordre, d'abord, les États-Unis, c'est un pays de risk takers, de gens qui prennent des risques. On t'apprend très vite que tu peux faire faillite, c'est OK, c'est pas grave de te planter. Tu sais, à l'école en France, l'enfant qui lève la main, c'est l'enfant qui connaît la bonne réponse. Mais l'enfant qui est pas sûr ou qui sait pas, il lève pas la main. Aux États-Unis, l'éducation est différente. Tout le monde passe au tableau tout le temps. Tout le monde est toujours à présenter des trucs et tout. Donc, tu vas forcément te planter. Et en France, quand le mec se trompe, les petits enfants, c'est pas de leur faute, c'est des enfants. Mais ils ricanent. Ah 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 ah, il s'est trompé. Aux États-Unis, tu te trompes, c'est pas grave. Tu move on et voilà. Donc, aux États-Unis, on t'encourage en fait à faire faillite. On t'encourage à essayer et on le voit en France. Tu vois, moi, je me présente et je proclame, j'ai beaucoup échoué. Mais personne fait ça en France. En France, c'est un tabou. T'as échoué, c'est parce que t'es nul. Bah non, t'as échoué, c'est parce que t'as essayé en fait. Ouais, vas-y, dis-moi.
Non, mais t'as raison, j'allais appuyer ça. Hein, c'est que t'as une vraie. Quand tu parles à un Américain disant que t'as raté, il dit waouh, bravo. Parce que t'as essayé en fait.
T'as pas fait exprès de rater, t'as fait de ton mieux, tu vois, et t'as appris des choses. Donc, c'est Mandela qui dit soit je réussis, soit j'apprends. Donc, voilà. Et en France, donc voilà. Donc, ça, c'est un truc énorme. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aux États-Unis.
C'est culturel en fait. Donc, ça, c'est.
C'est complètement culturel. Ouais, ouais. Ensuite, ils attirent les talents du monde entier. Moi, j'investis dans les startups de la Silicon Valley. J'investis rarement dans un mec qui est américain sur 28 générations. Le mec, il est né n'importe où, en Afrique, en Asie, en Europe. Et en fait, son rêve, c'est d'aller monter une boîte. Et il ne va pas monter une boîte à Paris ou sur le plateau de Saclay ou quoi que ce soit. Il va monter une boîte dans la Silicon Valley. Et donc ça, le monde entier, y compris les Français, vont monter des boîtes là-bas. Et donc, en fait, la Silicon Valley, c'est un espèce de hub de gens ambitieux qui se retrouvent et qui veulent monter des boîtes. Parce qu'effectivement, j'ai plein d'exemples de plein de pays. Un mec qui est né au Caire ou qui est né à Haïti. Tu peux monter une boîte à Haïti, mais tu as moins de chances de succès que de monter une boîte à San Francisco. Donc ça, c'est un autre élément. Ensuite, tu as effectivement un très gros marché local avec plus de 350 millions de personnes qui parlent la même langue. Et dans la plupart du temps, c'est une seule loi pour tous les pays. Alors qu'en Europe, on a un très gros marché, mais c'est des lois différentes et des langues différentes. Donc, beaucoup plus compliqué en Europe, ça, on le sait, hein, c'est classique. La réglementation est aussi plus favorable en général aux États-Unis aux boîtes technologiques. Et puis, tu as la question des talents. Les plus grandes universités au monde sont aux États-Unis, que ce soit côte Est ou côte Ouest. Et donc, ils ont aussi plus de gens talentueux à embaucher. Ils ont plus d'argent. Tu as 25% du financement mondial des startups qui est à San Francisco. Donc, t'imagines, tu as une ville qui représente un quart du financement mondial. C'est fou, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, on commence à avoir fait pas mal le tour.
T'as peut-être la langue aussi qui est plus universelle effectivement que la France,
la langue,
si tu compares à la France ou à l'Asie. Ouais.
Effectivement. Et ils ont plus d'ambition. Il y a plein de choses, quoi. Il y a plein d'éléments. Mais là, on a cité les principaux déjà. Ouais.
Et si on revient sur vraiment la Silicon Valley, ce lieu géographique physique, pareil, qu'est-ce qui a fait que ce soit ce lieu-là et pas un autre qui soit aussi connu aujourd'hui, quoi.
Écoute, alors ça remonte. En fait, tu sais, San Francisco, ça a toujours attiré les gens ambitieux en recherche de fortune, parce qu'à l'époque, c'était la ruée vers l'or. En fait, San Francisco, c'est une ville qui s'est construite au moment de la ruée vers l'or. Et donc, apparemment, la ruée vers l'or, c'était un truc de malade quand tu y penses. Il y avait rien, il n'y avait pas d'internet, tu entendais des espèces de rumeurs. On te dit, mais il y a un endroit où les gens trouvent de l'or et font fortune. Et tu as des espèces de malades mentaux, des maboules, qui partent avec une pioche dans un endroit où ils n'ont jamais été de leur vie. Ils partent, tu imagines, en bateau, en train, enfin, c'est il y a 250 ans, et ils disent, je sais pas, je vais creuser, je vais faire fortune, quoi. Donc c'est vraiment une mentalité, tous les descendants de gens qui prennent des risques et qui sont complètement fous, qui ont des rêves de dingue. Et puis ensuite, bah, il faut voir ce qui se passe dans les années 50-60. C'est toute la création d'Apple et de Microsoft, et il y a un film génial qui s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley. Voilà, la création des premiers ordinateurs, il se trouve que ça se fait à cet endroit-là, au même moment, avec Intel, Apple, Microsoft et tout, et que ils sont tous réunis au même endroit, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que ces gens-là que ça intéresse. Le reste du monde est en train de faire d'autres trucs. Ils sont tous là, ça crée des fortunes énormes, des milliardaires. Et du coup, bah, la suite, on se dit, on va se mettre dans le sillon, on va se mettre à côté d'eux, ce sera plus pratique et tout, donc voilà.
Ah oui, bon, ils s'aimantent aussi. Hein, mais... Et quand on parle de Facebook, justement, Airbnb, Uber et autres, c'est vraiment des boîtes qui ont été créées dans la Silicon Valley, ou c'est des boîtes qui assez vite ont rejoint l'écosystème entrepreneurial?
Toutes ces boîtes-là, elles sont de la Silicon Valley. Zuckerberg, il était, je ne sais plus dans quelle université. Je me demande si c'est pas. Attends, on va regarder. On a la chance d'être connecté sur Internet. Zuckerberg Dropout. Mais donc, il était très, 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 très vite, il était à Harvard. Donc, Harvard, effectivement, c'est sur la côte Est. Mais tout de suite, au moment où il Dropout, boum, il part dans la vallée instantanément. Google, ça a été créé dans la vallée. Tu parlais de Uber, Travis Kalanick, hein, c'est San Francisco, il vient de là. Et voilà, les bureaux sont downtown San Francisco. Airbnb, c'est pareil, parce qu'Airbnb, ils ont créé Y Combinator, qui est l'incubateur où moi j'investis aujourd'hui, et c'est dans la vallée. Donc, tu as quelques exceptions. C'est Amazon, ils ne sont pas à San Francisco. Leur siège, c'est, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus, mais ce n'est pas San Francisco. Et Microsoft, ils sont à Seattle, ou c'est l'inverse? C'est Amazon qui est à Seattle. Il y en a deux qui est à Seattle, voilà. Mais 99%, les Google, les Facebook et tout, ils sont là-bas. Et donc, à nouveau, tu vois, moi, je raisonnais depuis la France, je me dis, mais attends, mais ce n'est pas un hasard. À la limite, presque, on s'en fout de l'explication, mais le résultat, c'est qu'il faut aller investir là-bas, tu vois. Après, l'explication, elle est intéressante aussi à chercher, mais voilà, il se passe un truc de fou là-bas. Les gens talentueux veulent aller monter des business là-bas. Ouais.
Donc, tu dis, ça paraît assez naturel d'investir là-bas, mais est-ce que ça paraît aussi assez naturel d'entreprendre là-bas ? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu montes une boîte demain, tu pars directement là-bas
instantanément. Okay. Ça n'a aucun sens pour moi si tu parles anglais. Alors après, il y a des gens qui disent « je parle pas anglais », ok. Ou alors des gens qui disent « bah moi j'ai toute ma famille en France, ma femme, mes enfants, ils sont à l'école, je peux pas partir ». Bon bah ok, t'as des circonstances de vie. Mais enfin, des enfants, il y a des écoles françaises à San Francisco, enfin tu vois, ça dépend de ce que tu veux. Mais si t'es vraiment ambitieux, tu pars aux États-Unis, bien sûr, tu pars monter ta boîte à San Francisco. Alors, quand je dis ça, bon, il y a des super success stories en France. Il y en a, il y a des licornes françaises, il y a des histoires géniales et tout. Donc, tu peux réussir en France, bien sûr. Tu peux, mais moi, personnellement, oui, je monte une boîte demain, je vais aux États-Unis, c'est évident, ouais, c'est sûr.
Okay. Et tu as d'autres écosystèmes comme ça dans le monde, dans d'autres pays aussi, enfin, peut-être pas aussi forts, mais en tout cas qui ressemblent un peu à ce principe.
Tu en as plein, mais qui sont effectivement pas aussi forts. Paris en fait partie. Paris, c'est un écosystème qui est l'un des meilleurs au monde. Mais si tu es bon deuxième, Paris est loin d'être deuxième, mais imaginons que Paris soit deuxième. Bon deuxième, c'est pas fort. Tu peux quand même être très loin du premier.
Oui, oui.
Et c'est le cas de Paris. Paris a un écosystème super. Mais loin, loin, loin derrière San Francisco quand même. Donc, il y en a d'autres. Il y a Berlin. Voilà, tu as Paris. Londres est pas mal. Après, tu as effectivement en Asie, bah, t'as, comment ça s'appelle, à côté de Shenzhen, là, en Chine, bien sûr.
À Hong Kong.
Non, enfin, alors tu as aussi Hong Kong, mais bon, Hong Kong, non, en ce moment, ils n'ont pas traité de startup. Non, c'est en Chine, c'est une ville à côté de Shenzhen. C'est c'est Guangzhou. Non, Guangzhou est à côté de Shenzhen. Bon, bref, t'as deux, trois villes en Chine qui sont vraiment voilà, la Silicon Valley chinoise. T'as Bangalore où j'ai été, qui est vraiment aussi la Silicon Valley, entre guillemets, indienne. T'as plein d'écosystèmes. Il se passe pas mal de choses en ce moment dans le Middle East. Dubaï, t'as pas mal de boîtes. Tu commences à avoir des boîtes en Égypte, en Arabie Saoudite. Enfin, il y a pas mal de trucs. Ouais, Dubaï, c'est un bon hub. Mais tout ça, ils sont à des années-lumière de la Silicon Valley. Moi, je les connais, hein, ces hubs. Je regarde ce qui se passe. Mais Silicon Valley, c'est des années-lumière devant.
Bon, il y a aussi les Hauts-de-France avec Lille. Hein, ils ont créé la Silicon Valley.
Voilà, la Silicon Valley, exactement.
Ok, et donc toi, ça veut dire que tu te dis, je me focus vraiment sur les États-Unis ou par curiosité, tu vas quand même voir ce qui se passe en Inde, à Dubaï, en Chine, etc. Parce que tu te dis, t'es pas à l'abri qu'un pays qui a plus d'un milliard d'habitants puisse créer ou recréer un écosystème presque aussi puissant.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça, c'est mon point de vue aujourd'hui et il n'est pas gravé dans le marbre. Le monde change et donc mon avis change. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et j'adore changer d'avis. Ça veut dire que j'ai réfléchi et que j'ai trouvé... voilà. Donc oui, je regarde ces écosystèmes. Pour tout te dire, j'ai investi au Mexique, en Inde et au Nigeria dans quelques startups. Je ne le fais plus aujourd'hui. C'était exploratoire et je ne suis pas mécontent de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que la Silicon Valley reste une opportunité bien supérieure encore à ces pays-là. Parmi les trois que j'ai cités, Nigeria, Mexique, Inde, le plus intéressant en ce moment, c'est l'Inde, effectivement, parce que c'est celui qui a quand même la trajectoire la plus incroyable. Le Nigeria est très, très intéressant. Simplement, ils ont vraiment des gros problèmes économiques en interne, etc.
Ok.
Excuse-moi.
Vas-y.
Et donc, heureusement, j'ai pu couper mon micro, normalement, pour nos auditeurs qui ne me voient pas m'étouffer, qui ne m'entendent pas m'étouffer. Donc, l'Inde, c'est très intéressant, mais pour autant, voilà, je crois toujours, je considère vraiment que la Silicon Valley reste une opportunité bien supérieure. Voilà.
Ouais, ok. Bon, on va essayer de faire un focus un petit peu maintenant pour rentrer un peu, on va dire, sur le terrain de la Silicon Valley. On va se focuser sur cet endroit géographique, en tout cas.
Allez.
Bon, je pense pas qu'il y ait de secret, parce que comme j'ai lu ton livre, je sais que tu as dévoilé, enfin, en tout cas, tu as partagé quelques secrets d'investisseurs, notamment sur comment tu arrives, à les sourcer. Est-ce qu'il faut forcément aller sur place pour trouver ou avoir un intermédiaire un peu comme toi qui lui dise voilà, moi, voilà ce que j'ai sourcé. Et donc ça, c'est la première question, c'est comment tu sources et quels sont tes critères d'analyse qui sont peut-être très différentes de quand tu analyses une startup française. Et est-ce que tu l'as juste de la même façon si elle est dans la Silicon Valley? C'est comment tu es à l'origine du sourcing et de l'analyse d'une startup.
Ouais. Alors, je réponds à ces questions-là avec grand plaisir. Je voulais revenir un tout petit peu, c'est ce que tu as dit au tout début dans l'introduction, en disant, mais finalement, beaucoup de Français disent, ça fait peur, est-ce que c'est pas la même grille d'analyse, etc. Et je pense que, de base, c'est plutôt une bonne chose d'avoir peur. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faut foncer d'être baissé en se disant, bah voilà, j'ai trouvé cette boîte au Pakistan ou je sais pas quoi, au Népal, au Timor oriental, vas-y, moi j'y crois, j'y vais à fond, j'ai peur de rien et tout. Je pense qu'il faut quand même être prudent à l'étranger. J'étais là il y a quelques jours au Portugal, je parlais avec un investisseur qui vient d'acheter un bien immobilier. Malheureusement, il s'est fait avoir sur un truc tout con, mais au Portugal, il n'y a pas de notaire. Et donc au moment de la transaction, il n'y a pas de vérification. Comme on a en France, pour vérifier que tout est carré. Et donc là, le logement n'était pas dans les règles, mais personne ne vérifie. Et donc, lui, il s'est dit, bah, c'est bon, c'est le Portugal, machin. Donc, attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. Et donc, moi, quand j'investis, je fais vraiment attention quand même là où je mets les pieds, je ne le fais pas à l'arrache, etc. Et par exemple, pour revenir sur ce que je disais, quand je dis que j'investis en Inde, au Mexique et au Nigeria, dans les trois cas, c'était une structure et un investissement qui a lieu aux États-Unis. C'est-à-dire que j'investis dans une boîte américaine. Il se trouve qu'elle se développe sur le marché indien, mexicain ou kényan. Je ne vais pas investir directement au Nigeria, en Inde, parce que j'y connais rien, je ne maîtrise pas la langue, je ne maîtrise pas la loi, quelles sont les règles, les droits, les devoirs pour les investisseurs. Je n'investis pas en Chine, par exemple, parce qu'on sait qu'ils sont... voilà. Donc, la loi américaine, je la connais, je la maîtrise. Encore une fois, je parle anglais, je travaille là-bas depuis des années, donc voilà. Ouais. On sait que c'est un pays, les Américains, où voilà, il n'y a pas de problème. Si on veut avoir des recours juridiques, on peut. Les Américains ne sont pas favorisés par rapport aux étrangers, c'est pas parce que je suis français que je serai discriminé là-bas, etc. Donc on sait qu'il y a un cadre safe, hein, si je puis dire, qui est un cadre légal qui nous protège. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà.
Ouais, enfin, oui, ça je comprends que c'est un pays qui est structuré, effectivement.
Exactement.
Mais tu vois, tu parlais un peu de peur. Tu vois, moi j'ai investi dans une quinzaine de startups. Il y en a 14 en France. Il y en a une en Colombie pour une bonne raison, c'est que j'ai un copain qui est colombien qui montait sa boîte là-bas et donc j'étais juste rassuré de dire, enfin rassuré. En tout cas, j'étais assez confiant de me dire, OK, lui, il est colombien, il connaît le marché, il connaît la loi, comme tu dis, il connaît tout l'écosystème, donc vas-y, j'y vais et j'investis directement là-bas parce que je le connais, quoi.
Ouais, parce que tu le connais, que tu sais qu'il va pas te la faire à l'envers. Mais si tu le connais pas, le gars, il peut disparaître avec l'argent. Tu vois, Colombie, moi, j'irai pas. Si je connais pas, après, si c'est ton pote, ça, évidemment, il n'y a pas de problème, quoi.
Oui, mais tu vois, j'aurais eu le même cas de figure avec même un Américain que je ne connais pas. Je me dirais, bah, en fait, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Faut que je le
aux États-Unis, aux États-Unis, ça va. Parce que c'est comme la France, tu veux. En France, tu connais pas forcément de juge et tu connais pas les procédures pour. Mais tu sais que s'il y a un problème, la France va pas t'entourlouper. Et c'est pareil avec les États-Unis. Les États-Unis, il va pas t'entourlouper. Par contre, au Colombie, tu sais pas, il donne un pot de vin, il connaît son cousin, c'est le neveu du. Je sais pas, je veux pas dire du mal de la Colombie. C'est un pays d'ailleurs que je connais pas, que j'ai envie de découvrir, j'ai très envie d'y aller. Ça a l'air super. Mais tu sais pas exactement comment c'est, quoi. Tu vois, si t'as pas vécu 20 ans, t'as pas l'expérience. Voilà. Moi, j'ai vécu en Chine. Je peux te dire qu'en Chine, t'entends des histoires qui font vraiment, vraiment, vraiment flipper. T'en entends tous les jours sur des Européens ou des Occidentaux qui sont venus et qui se sont fait piquer leur fric. Donc voilà, ça te refroidit. Il faut faire attention. Donc, juste pour dire que de base, je pense que la question d'être prudent, c'est plutôt un bon réflexe. Voilà. Maintenant, si on va dans des pays safe et qu'on est tu vois, des gens qui investissent avec moi, où ils ont confiance en moi et ils savent que moi, ça fait des années que je connais cette réglementation, etc., là, il n'y a pas de problème. Mais, ou comme toi, avec le copain colombien. OK. Alors, revenir sur tes deux questions. Comment sourcer les boîtes et comment les sélectionner? Donc, effectivement, t'as parlé de mon livre que t'as lu. Donc, je fais une minuscule page de pub, mon premier livre, préfacé par Xavier Niel, qui s'appelle « Mes secrets d'investisseur » paru en 2019, où je parle de mes critères d'investissement. Et puis mon deuxième livre, paru en 2023, qui s'appelle « Investir dans les startups, fois 100 ou rien », qui parle de ça beaucoup, beaucoup plus en détail. Ils sont vendus sur Amazon, dans les Fnac, sur les librairies, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Bon, pour vous éviter d'avoir à lire le livre, on vous fait un résumé ensemble avec Alexandre. Donc, comment sourcer? Alors, effectivement, tu l'as dit, est-ce que tu vas sur place? Oui, c'est difficile, a priori, de sourcer sans aller sur place. C'est normal, hein, c'est logique. Alors effectivement, ce que je raconte dans mon livre, c'est que en allant sur place, donc c'est cette première histoire que je racontais tout à l'heure, un beau matin, je me réveille, je me dis, mais il faut que j'aille aux États-Unis. J'ai la chance de pas débarquer fraîchement sorti de mon œuf, entre guillemets, mais d'avoir déjà un club qui tourne de faire des investissements. Et donc, je rencontre des gens, mais auprès de ces gens-là, j'ai déjà une crédibilité. Parce que je leur dis, moi, je suis capable de mettre des tickets de 150 000 avec mes investisseurs français dans des boîtes. Et donc, j'ai effectivement deux personnes qui m'ont un petit peu ouvert leur réseau. C'est une bonne façon de commencer. Honnêtement, c'est pas les meilleurs deals parce qu'il y a des intermédiaires. Disons qu'au début, tu vas un peu ramasser les miettes. C'est normal. Les très bons deals, il faut les avoir en direct. Donc, ça peut être éventuellement une façon de commencer. Mais effectivement, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est être sur place, se construire son réseau et vraiment rencontrer les boîtes directement, être connu. Et je dis être connu, c'est pas être une star de Hollywood, mais dans ce milieu-là, c'est un petit monde. Même si à San Francisco, c'est un beaucoup plus grand monde qu'en France, il y a plus de monde. Mais voilà, se faire connaître. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, tu vas peut-être me dire, alors pourquoi tu n'habites pas là-bas? Parce que tu sais que j'habite toujours en France. C'est vrai que moi, j'ai décidé de rester en France. Je trouve qu'on vit beaucoup mieux en France qu'en Californie. La Californie, c'est sympa, mais voilà, il y a beaucoup de, je sais pas, la bouffe, la qualité de vie, la santé, la sécu et tout. Il y a beaucoup de choses moins bien. Donc, je vais très, très, très souvent aux États-Unis, plusieurs fois par an, bien sûr. Mais voilà, je continue à faire les allers-retours, mais le reste du temps à être basé en France. Il se trouve que moi, de toute façon, je voyage toute l'année, donc je passe pas tant de temps que ça en France. Je suis aux États-Unis, mais je suis parfois ailleurs. Comme je te disais, voilà, effectivement, j'étais en Asie, mais je peux être en Asie, je sais pas quoi, Amérique du Sud, partout, voilà, en Europe. Oui, dis-moi.
Et t'as un partenaire ou des forces en présence localement qui viennent, qui peuvent t'alerter quand il y a des dossiers qui passent, quand il y a des événements, quand est-ce que t'as des relais sur place ou tant qu'il n'y est pas, il se passe rien?
Non, j'ai des relais sur place. Après, il faut savoir qu'il se passe aussi beaucoup de choses en ligne. C'est-à-dire que on peut, tu vois, là, on enregistre sur Internet, quoi, comme si on était sur Zoom, même si c'est pas Zoom. Et on peut faire aussi des rencontres comme ça avec des entrepreneurs. Donc, il se passe des choses sur Internet. J'ai des relais sur place. Mais maintenant, si tu veux, je suis plugué dans tous les bons coups, si je peux dire. J'ai plus besoin de mes relais sur place. J'ai toujours mes relais sur place qui peuvent me prévenir de X, Y, Z choses. Mais si tu veux, maintenant, c'est comme si j'y étais tout le temps. C'est comme j'ai passé tellement de temps dans la vallée, j'ai rencontré tellement de monde que c'est presque comme si j'y habitais. Quand tu habites à Paris, tu connais des gens à Paris, mais tu les vois pas tous les jours. En fait, tu les vois peut-être 2-3 fois par an. Et moi aussi, je vois les gens à San Francisco 2-3 fois par an. Je dis que San Francisco, c'est ma deuxième maison, tu vois. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je finirai par acheter de l'immobilier là-bas aussi, pour être chez moi quand j'y vais. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, ça coûte très, très cher. Il faut que je gagne encore un peu dessus. Mais voilà, je dis que San Francisco, c'est ma deuxième maison. J'y vais vraiment, vraiment tout le temps. Je passe aussi beaucoup de temps à New York. Enfin, voilà, les États-Unis, c'est j'y vais tout le temps. J'étais encore à New York il y a quelques semaines. Je suis à San Francisco dans quelques semaines. Enfin, c'est, voilà. Donc, c'est pas du tout si je ne suis pas, il ne se passe rien. C'est... quand il y a des événements importants à New York, je vais à New York. Quand il y a des événements importants à San Francisco, je vais à San Francisco. Quand il se passe rien et que c'est l'été, ben, je peux être tranquille chez moi en France ou tranquille en vacances. Voilà, je me vois vraiment. Mais encore une fois, je voyage dans à peu près 15 pays par an, entre 10 et 15 pays par an. Donc, je me vois pas du tout comme juste habitant en France. Ma situation géographique est vraiment fluide et change énormément. Donc, je passe beaucoup de temps aux États-Unis et encore une fois, tout ce qui ne se fait pas en physique se fait en digital. Ça marche aussi. Voilà.
Ok, donc on va dire assez naturellement maintenant, les infos remontent assez naturellement grâce à tout ce que tu as fait dans le passé. Et du coup, ça veut dire que tu as de l'info qui remonte. Et ensuite, comment tu la traites ? Est-ce que c'est des gens qui forcément viennent te voir en disant « Tiens, moi, je lève des fonds » ou tu crées parfois l'opportunité de dire « Ok, moi, ça m'intéresse un jour si tu ouvres ton capital, etc. » et tu places tes billes
un peu… Bien sûr, c'est les deux. Alors, c'est le moment d'aborder un point important. C'est que moi, je n'investis pas uniquement dans la Silicon Valley au hasard, entre guillemets. J'ai rajouté une couche supplémentaire, c'est que donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'investis uniquement dans les startups du Y Combinator. Le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de startups au monde, basé à San Francisco. C'est eux qui ont incubé des startups comme Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, Twitch, DoorDash, Reddit, etc., etc. Donc, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. On disait qu'il y a plus de 900 licornes aux États-Unis. À eux tout seuls, ils sont responsables de plus d'une centaine de licornes. Juste un incubateur. Donc, c'est complètement hallucinant. Et donc, moi,
Juste pour bien comprendre l'incubateur, c'est les startups postulent pour être incubées dans cet incubateur-là. Et ensuite, ils sont pris un peu en main, ils sont branchés à tout l'écosystème, c'est ça ?
Exactement. C'est un programme d'accélération qui dure 3 mois où on les aide vraiment à cartonner. Il faut savoir que donc, c'est l'un des incubateurs les plus durs dans lequel rentrer, parce qu'ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. Parce que forcément, tout le monde veut postuler, parce que c'est le meilleur. Et ensuite, ils ont une statistique complètement folle. C'est que si tu es pris dans l'incubateur, tu as une boîte sur 20, c'est-à-dire 5%, qui deviennent des licornes. Donc, c'est vraiment complètement hallucinant. C'est hors sol, si tu veux. C'est hallucinant. Mais c'est très difficile d'accès, donc pour les startups et aussi pour les investisseurs. Si toi, demain, tu dis, bah voilà, moi, je veux aller investir là-bas, impossible. C'est porte fermée. Et donc, c'est très, très difficile d'accéder à ça. Donc, j'ai passé énormément de temps pour réussir à avoir ces accès et rencontrer beaucoup de monde. Et donc, moi, j'investis uniquement au Y Combinator. Donc, pourquoi je te parle de ça ? Pour répondre à ta question de est-ce que c'est eux qui viennent à moi qui viens à eux ? Quand tu es investisseur, moi, c'est mon métier depuis des années, j'ai un profil LinkedIn où il y a écrit que j'ai un fonds d'investissement, etc. Tu reçois des dizaines de messages par jour, tous les jours, de startups qui veulent que tu investisses chez eux. Je reçois même encore des messages de boîtes françaises, alors que partout, il y a écrit « j'investis aux États-Unis » et tout. Plein de boîtes françaises qui me disent « ah, mais nous, on est français, tu veux faire une exception ?» Bon, c'est pas la peine de m'écrire, hein, si vous m'entendez, malheureusement, ça marche pas, mais je reçois quand même 5 par jour, tous les jours. Bon. Et donc, à nouveau, alors, ça peut arriver qu'une boîte te contacte et que ce soit une super boîte et que tu investisses. Mais en général, les meilleures boîtes, elles vont pas te contacter en direct. Soit elles vont trouver un intermédiaire pour te contacter. Donc elles vont dire, tiens, Alexandre, tu connais Gabriel, tu peux me le présenter. Et le fait que ça vienne de toi, Alexandre, je dis, bah attends, Alexandre, c'est un mec génial, il est intelligent, il a investi dans plein de boîtes. S'il me parle de ça, c'est que ça doit être intéressant. Et donc, voilà, donc ça, c'est une première chose. Et sinon, oui, tu me demandais, est-ce que ça m'arrive de, entre guillemets, moi, provoquer ma propre chance ? Bien sûr. Parfois, je vois des boîtes incroyables dans la Silicon Valley ou Y Combinator qui font des super levées de fonds. Les mecs, ils m'ont pas contacté parce qu'ils ont déjà des investisseurs, les Andreessen Horowitz, Sequoia, tout ce que tu veux, Kleiner Perkins et tout, les très, très, très grands fonds aux États-Unis qui sont vraiment les meilleurs, alors là, vraiment au monde, hein, incontestablement. Et eux, ils vont pas se dire, tiens, il faut absolument que j'aille contacter Gabriel. Ils ont autre chose à faire, évidemment. Mais moi, par contre, je peux aller les voir en disant, ok, les gars, moi, voilà ce que je peux vous apporter. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai vendu 3 boîtes, voilà ce que je sais faire. En face, de l'autre côté, vous avez que des financiers qui ont jamais mis les mains dans le cambouis. Moi, je vais pouvoir vous aider réellement. Donc, est-ce qu'on se tape dans la main et qu'on investit ensemble ? Et c'est comme ça que j'arrive à... Donc, enfin, parfois, ils viennent à moi, hein, ça m'arrive. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Y Combinator, c'est donc un très fermé, mais tout le monde est très soudé, tout le monde se connaît. Donc, moi, ça fait des années et des années que je parle à tout le monde, donc tout le monde me connaît là-bas maintenant. Donc, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de gens qui m'envoient des deals. Tu vois, là, j'ai investi dans un deal en septembre. Vendredi dernier, le gars me dit, tiens, j'ai ces copains là, ils étaient dans la même promo que moi au Y Combinator en 2021, ils font une levée de fonds, leurs chiffres cartonnent, est-ce que tu veux leur parler ? Et tu vois, c'est un truc, personne n'est au courant de l'opportunité, c'est juste, ils étaient ensemble dans la même promo du YC, moi j'ai investi chez l'un, il me parle de son pote, résultat, je leur ai parlé hier et aujourd'hui je leur ai envoyé un mail et j'investis, tu vois. Les chiffres sont complètement fous. Voilà, donc c'est aussi comme ça que ça se fait, c'est vraiment par réseau pur, quoi.
Et quand tu dis que tu t'impliques avec ta casquette entrepreneur, ça c'est quand c'est à titre perso, quand c'est le club, quand c'est le fonds ou quand c'est les trois?
Les trois. Alors moi, je fais assez peu d'investissements perso à côté. Okay. J'en ai beaucoup fait par le passé dans les startups, mais aujourd'hui, comme mes meilleurs deals, je les mets dans le club ou dans le fonds, ben moi, j'investis dans le club et dans le fonds. Donc moi, je suis investisseur dans mon propre club, dans tous les deals, et je suis investisseur dans mon propre fonds, et donc okay. dans tous les deals aussi. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt de faire des deals à côté, puisque les meilleurs deals, je les ramène dans le fonds et je suis déjà investi là-dedans. Alors, il y a des petites exceptions. Si c'est impossible de faire rentrer le club ou le fonds, mais que moi, je veux mettre un petit ticket perso, ça m'arrive. C'est vraiment très rare. Ou alors des trucs qui ne correspondent pas à la thèse. C'est-à-dire que dans le club et dans le fonds, je dis aux gens, bah, vous aurez, voilà. Et s'il y a un truc qui ne correspond pas du tout, qui a un espèce de truc de déglingo, mais je me dis, bon, allez, ça m'amuse, j'y crois, je peux mettre un ticket perso, mais c'est assez rare. Mais dans les trois cas, bien sûr, je m'implique. Ouais, tout à fait.
Ok, oui, quand ça sort un peu de la thèse, pourquoi pas. Et donc, ça veut dire que là, club et le fonds, c'est 100% l'incubateur maintenant.
Ouais, le club, Léonis et le fonds Lobster Capital investissent uniquement dans des deals YC et aux États-Unis, donc des startups américaines.
Ok, ok. Et là, oui, et le YC, il y a assez de deal flow de manière quotidienne ou annuelle, en tout cas, pour pouvoir déployer l'argent qui est collecté, quoi.
Largement. Et encore une fois... les gens me disent pourquoi tu n'investis que au YC et je réponds parce que je peux. C'est-à-dire que maintenant que j'ai accès au YC, je ne me vois même pas investir ailleurs parce que c'est comme une fois que, j'en sais rien, bon moi j'aime pas les bagnoles, mais une fois que tu as roulé en Porsche ou en Ferrari ou en Tesla et après on te dit ah oui mais tu as aussi une Clio dans ton garage, pourquoi tu la sors jamais? Et tu dis mais j'en ai rien à foutre de ma Clio, moi j'ai ma Tesla, ma Ferrari. Donc et c'est pas pour dire du mal hein, des startups françaises, mais c'est que le niveau YC est tellement élevé que moi, aujourd'hui, je ne me vois pas mettre de l'argent ailleurs. Je n'ai pas besoin. J'ai accès aux meilleures boîtes du monde, quoi.
Ok. Avant qu'on revienne un peu du coup, sur club et fonds, juste pour finir du coup sur la partie... Enfin, pour commencer ou pour finir sur la partie critères. Donc ça, c'est le critère numéro un qui est assez clair. Hein. De toute façon, c'est oui ou c'est non. Hein. Ça rentre ou ça rentre. Enfin, ça sort de là ou ça ne sort pas de là. Ouais. Ensuite, est-ce que tu déclines une grille assez stricte de
sûr.
Critères financiers, humains, marchés, etc. Ou est-ce que c'est un petit peu... Un peu moins rationnel en fonction de qui t'es en face.
Ultra, ouais, non, merci de me tendre la perche parce que tu dois le savoir puisque tu as lu mon livre. C'est effectivement ultra, ultra rationnel. Ça, c'est aussi probablement le côté ingénieur. Donc, j'ai une grille d'analyse ultra précise. Et donc, effectivement, je passe les startups au travers de la moulinette des critères. Et j'ai moi-même un filtre où je vais éliminer plus de 99% des dossiers que j'analyse. Hein, donc, moi, je vois passer plus de 5000 dossiers par an. Moins que ça au YC, parce que YC, il y en a moins que ça chaque année. Mais que ce soit YC ou or, même si or, du coup, je ne les fais pas, j'élimine plus de 99% des deals que je regarde. Donc, à nouveau, là, les critères, il y en a 9, mais il y en a même plus que ça. Et donc, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais je vais en donner quelques-uns qui sont les plus importants et les principaux. Le critère principal, en fait, numéro 1, évidemment, pour toujours et pour tout le monde, c'est l'équipe. Je le dis en premier parce que c'est le plus important et je ne m'éternise pas parce que c'est assez classique et banal de dire ça. Tout le monde le dit, a raison, on a raison de le dire, mais voilà, j'ai rien d'original à apporter là-dessus. Il faut une équipe, très bonne équipe, complémentaire, résiliente, etc., etc. Tu voulais réagir sur l'équipe ?
Non, je la posais à la fin de la question. Je te laisse dérouler sur les points si tu veux, après je te la poserai.
Et ensuite, après l'équipe, moi j'ai, donc comme je disais, 9 critères, il y en a même 10, 11, 12, enfin après voilà, plus ou moins important, mais les trois principaux, c'est ce que j'appelle la méthode ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Donc, ouais. Effet d'échelle, c'est une boîte scalable, c'est-à-dire une boîte qui va pouvoir augmenter ses revenus sans augmenter ses coûts. Donc une boîte qui va pouvoir gagner de plus en plus d'argent, augmenter sa marge et être ultra rentable et se développer rapidement sans avoir de coûts de production ou humains, etc. Donc on peut penser à toutes les boîtes qui sont digitales sur Internet, etc. C'est très scalable. On peut penser à Netflix, vous produisez le film une fois et après qu'il y ait 10 ou 1 million de personnes qui le regardent, c'est la même chose pour Netflix, ça ne leur coûte pas plus cher. Voilà. Mais eux, ils gagnent plus d'argent parce que les gens s'abonnent et ça. Scalabilité, donc effet d'échelle. T, traction. Donc traction, c'est la boîte qui décolle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui investissent sur des startups qui n'ont pas encore lancé leurs produits et qui peinent à démarrer. Et donc, si on investit sur des startups qui ont déjà de la croissance rapide, on a beaucoup plus de chances de gagner. Et donc ça, c'est justement ce que le Y Combinator apprend aux startups, c'est comment très vite aller chercher de l'attraction. Donc moi, j'investis sur des boîtes qui ont de l'attraction. Et puis, avantage injuste, c'est puisque la boîte a de la croissance rapide, elle va très probablement être copiée surtout dans la Silicon Valley, il y a Mark Zuckerberg qui rôde et qui copie tout, les stories de Snapchat et machin. Mais pas que, tout le monde se copie, hein, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les idées, on peut copier une idée ou un produit. Et donc, comment on sait que c'est cette boîte-là qui va gagner et pas les 5 mecs qui vont arriver derrière et qui vont essayer de faire pareil, plus vite, mieux, etc. Donc l'avantage injuste, c'est il y a des milliers de formes. C'est aussi un élément important pour investir. Donc voilà, en quelques mots, encore une fois, après on peut rentrer dans le détail si tu veux sur certains points, mais, voilà, c'est déjà pas mal.
Et après ça, sur la méthode, ça veut dire que chacun de ces points, en gros, tu mets oui, non, à la fin, tu as c'est vert ou c'est rouge, et si c'est vert, tu creuses, si c'est rouge, tu élimines, quoi. C'est aussi rationnel que ça.
C'est aussi rationnel que ça, et s'il y a un critère, s'il y a 9 critères et qu'il y en a un rouge, c'est éliminé. Hein, il faut que tout soit au vert. Il n'y a pas de « ah oui, lui, bon, l'attraction est bof, mais comme j'aime bien », non. C'est, voilà. Encore une fois, après ça, c'est parce que moi, j'ai la chance d'avoir énormément de deal flow. Au début, quand tu as très peu de deal flow, bah, tu es moins regardant, tu prends ce que tu peux. Mais aujourd'hui, j'ai accès à trop de startups, si tu veux. Je pourrais tripler probablement mon niveau d'investissement, donc je sélectionne que la crème de la crème de la crème de la crème, le haut du panier. Quoi. Voilà.
Et si on fait le club et le fonds réunis, ça fait combien de participations par an, en moyenne?
C'est une très bonne question. Alors, le club, le club, c'est à peu près similaire. C'est 10 à 15 participations par an chacun.
Chacun, ok.
Entre 10 et 15 investissements par an chacun. Il peut d'ailleurs y en avoir en commun, mais pas forcément. Voilà.
Donc, on a quand même deux par mois, en tout cas, qui vont au bout. Deux nouvelles, en tout cas, par mois. Donc, après, avec le temps, ça fait quand même pas mal de participations à suivre. Après ça, est-ce que tu as des règles aussi que tu t'imposes pour, en termes de suivi? On disait que tu étais un peu impliqué dans certaines, en termes de reporting. Est-ce qu'ensuite, il y a des... qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que tu as investi, dans le suivi et l'implication?
Une fois que tu as investi, alors ça dépend. Toi, investisseur, il ne se passe plus rien. Moi, effectivement, donc je les aide, je vais passer du temps avec eux. Ça dépend des besoins de chaque startup. Il y a des startups qui n'ont pas besoin de moi, qui se débrouillent très bien sans moi. Hein, donc, je ne suis pas sur leur dos, je suis plutôt à leur disposition. Ensuite, les boîtes, elles envoient un reporting. Et donc, toi, en tant qu'investisseur, tu es tenu au courant du reporting et de ce qui se passe dans ces boîtes-là. Voilà.
Ok. Enfin, je reviens juste avant sur les startups, sur la sélection. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que tu privilégies ou tant que tout est vert quoi.
Alors, c'est plutôt la deuxième réponse, tant que tout est vert, mais c'est que sur des boîtes quand même du digital, au sens très très large. C'est-à-dire que je n'investis pas dans les produits physiques et je n'investis pas dans le médical. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas capable de savoir si telle molécule va guérir telle maladie, etc. Donc, je suis ingénieur en informatique, donc la technologie, ça me connaît, voilà, la médecine, non. Donc, dès que c'est du digital, que c'est pas un produit physique, encore une fois, on pourrait dire, je sais pas, de l'informatique au sens très très large, des 0 et des 1, effectivement, après, tant que c'est vert, tant que tout est au vert et qu'il y a une super, super croissance, là, on y va, quoi.
Ok, et toi, une fois que tu as détecté, dès que c'est vert, dès que tu as validé, est-ce que tu as ensuite un espèce de comité de sélection ou de board auprès de qui tu vas confirmer ou pas ta position?
Oui. Alors, j'ai un board d'investissement, c'est le même pour les deux entités, pour le club et pour le fonds. Il est non officiel, c'est-à-dire que c'est des gens que je connais de mon entourage, etc., qui ont de l'expérience. J'ai notamment un membre du board qui est aussi membre du board d'un fonds français qui gère 350 millions. Donc, voilà, beaucoup plus gros encore que ce que je fais, j'y viendrai un jour. Et donc, ils ne sont pas officiels, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas sur mon site et ils n'ont pas de pouvoir de décision. Moi, ils ont un pouvoir de consultation, c'est-à-dire que je les consulte systématiquement avant de faire un deal, et je prends en compte leur avis, mais je pourrais potentiellement aller contre leur avis. C'est extrêmement rarissime, parce que leur avis, si je les ai sélectionnés, c'est que leur avis est important pour moi, mais ça me permet effectivement d'affiner le raisonnement, et de parfois, tu vois, ils te posent des questions que toi, tu ne t'étais pas posé, etc. Donc, très utile d'avoir effectivement un investment committee. Ouais.
Ok. Une petite question là que j'y pense qu'il n'y a rien à voir. Du coup, forcément, c'est en dollars, hein, tout ça. Tu investis en dollars dans les boîtes américaines. Donc, tu as un sujet de change.
Alors, donc, effectivement, je travaille que en dollars depuis des années. L'euro n'existe presque plus pour moi, sauf pour aller acheter ma baguette de pain. Et tu as un sujet de change, oui, à 100%, puisque c'est l'euro-dollar. Mais tu as quand même de la chance d'avoir un sujet de change sur la monnaie la plus forte au monde. Donc, on n'est pas sur, encore une fois, je ne sais pas quelle monnaie du fin fond de l'Afrique australe. Voilà, t'es sur le dollar, donc bon, c'est pas... et au pire, tu peux même rester en dollar si t'es pas satisfait du change. Le dollar, c'est pas très grave d'en avoir, quoi. Voilà.
Oui, mais tes investisseurs, clubs ou fonds, eux investissent en euros.
La plupart, au départ, ils ont des euros, ils vont les convertir en dollars pour investir. Ouais, tout à fait.
Ah, c'est eux qui vont les convertir pour investir en dollars.
Tout à fait. Moi, donc, alors, pour être rentré un tout petit peu dans le détail technique, quand tu investis dans mon fonds, c'est un fonds américain, et donc quand tu envoies l'argent sur le fonds, il faut que tu envoies des dollars. Quand tu investis dans le club, à chaque investissement, on crée une holding. C'est une holding de droit américain. Et donc, il y a un compte bancaire spécifique à cette holding qui est ouvert pour récolter les sommes des investisseurs. Donc, c'est à nouveau un compte bancaire américain en dollars. Donc, à nouveau, il faut que tu envoies des dollars. Alors, c'est très simple. Hein, on utilise des services de transfert de monnaie internationaux indépendants. Hein, donc, aujourd'hui, avec les outils qu'on a sur Internet, comme Revolut, par exemple, ou Wise, ça se fait en 3 minutes. Hein, donc, c'est vraiment pas compliqué. Voilà.
Ok. Bah, juste avant qu'on rentre un petit peu dans le fonctionnement du club, parce que ça m'intéresse et le fond aussi, sur les investissements que tu as fait avec ces deux poches-là, est-ce qu'il y a déjà des sorties qui ont été faites?
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'il y a des belles histoires? Bon, ça, c'est, je pense que ça arrive. Est-ce que, en termes de moyenne, c'est quoi la statistique? Parce que souvent, on dit qu'en France, il y en a 1/10 qui réussit. Celles qui sortent du Y Combinator, est-ce qu'il y en a, il y a une meilleure statistique dans ce que tu as fait?
Bien sûr. Alors, évidemment. Donc, il y a une meilleure statistique grâce au Y Combinator. Et ensuite, il y a une meilleure statistique grâce à mes critères de sélection. Donc, aujourd'hui, en tout, avec le. Alors, je vais parler uniquement du club parce que le fonds, il date de 2023. C'est relativement récent. On a fait quelques investissements, mais là, évidemment, il n'y a pas d'exit, puisque les plus anciens ont quelques mois. Voilà. Mais donc, je vais parler du club qui existe depuis 2017, et on a commencé à investir aux États-Unis depuis 2020. Et donc, là-dessus, on a presque 50 investissements. Je ne connais pas le chiffre exact, ça doit être entre 45 et 50. Et on a 3 boîtes qui sont au tapis. Donc, on est à moins de 10% d'échecs, pour l'instant. Il faudra voir dans la durée. Mais pour te dire que déjà, on a très très peu de boîtes qui se sont plantées. Ensuite, on a fait effectivement des exits. Mais encore une fois, les exits qui ont moins de 5 ans, hein, puisqu'on a commencé il y a 6 ans. En fait, le premier investissement, d'ailleurs, c'est 2018. Donc, on a commencé il y a 5 ans. C'est les exits rapides. Et donc, les exits rapides, c'est des fois 1,5, fois 2, fois 3. Ce n'est pas les gros exits. Les gros exits, ça prend plus de temps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement une vue globale. Ce n'est pas de voir un ou deux exits. C'est de voir sur les 45-50 combien se sont plantés, donc 3, donc très peu. Et ensuite, quel est le montant investi, la valeur actuelle. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis 2020 qu'on fait les investissements au Y Combinator, on a investi 20 millions. Et aujourd'hui, ces 20 millions en valent 50.
Et ça, c'est quoi par rapport aux levées de fonds qui ont été faites entre-temps? Ouais, c'est ça.
Par rapport aux levées de fonds suivantes, c'est-à-dire que c'est une valorisation qui a été validée par un autre investisseur extérieur. Ce n'est pas une valorisation au hasard. Et donc ça, c'est très 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 intéressant parce que ça montre qu'on est déjà à x2,5 en seulement 3 ans, alors qu'on est dans une période où les valos sont pas très bonnes en général en ce moment là en 2023, et ça fait que 3 ans, ce qui est très très peu en termes de timing, puisque normalement les exits c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc déjà on a déjà multiplié par 2,5 en 3 ans. Si on s'arrêtait là, c'est déjà magnifique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 95% du portefeuille, il est encore en vie, les boîtes, elles se sont pas plantées, et donc ça va continuer à grossir, les boîtes, elles continuent à se développer et à augmenter notre multiple. Donc c'est comme ça, moi, que je le mesure, et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Et tu me disais, est-ce que Y Combinator, on a une meilleure statistique? Oui, hein, puisque je redis la statistique folle que j'ai dit tout à l'heure, c'est 5% des boîtes, 1/20 qui devient une licorne. Donc c'est vraiment complètement fou, et t'as 37% des boîtes du Y Combinator qui se font racheter ou qui rentrent en bourse. Donc t'as 37% d'exit, alors que si t'investis effectivement dans des boîtes au hasard, c'est au moins 9/10 qui vont se planter. Si tu investis au hasard au Y Combinator, tu en as déjà plus d'un tiers qui se font racheter ou qui rentrent en bourse. Donc, c'est complètement fou, si tu veux. Encore une fois, c'est pour ça que le Y Combinator, c'est dingue. Ouais.
Bah, si on suit la stat, ça veut dire que dans ton portefeuille, tu as 10 licornes, en tout cas en termes de statistiques, qui devraient arriver. Quoi.
Attends, 1/20.
Et moi, 1/20, je pensais que c'était 1/5. 1/20,
non, okay. C'est 1/20, c'est 5%. Donc, c'est 1/20.
T'en as 2, 3. Quoi.
J'en ai 2 ou 3, voilà. Mais effectivement, si on suit la stat, si j'avais investi au hasard, j'en aurais 2 ou 3 dans mon portefeuille. Personnellement, je pense que je vais en avoir plus que ça.
Okay.
On verra. Mais je pense qu'on va en avoir plus que ça. Et je te donne juste une belle histoire. On en a vraiment des tonnes. Je te donne une histoire qui est vraiment folle. On investit en mai 2022 sur une boîte qui s'appelle Flutterflow, qui est en train de devenir un peu la référence dans son domaine. C'est le no-code pour créer des applications mobiles. Créé par 2 anciens de chez Google sur la technologie Flutter qui a été rendue open source par Google. Et Flutterflow, on investit donc en mai 2022 à 80 millions de valos. Donc c'est très cher parce que les valos en mai 2022, c'était vraiment au pic de la bulle. Les valos étaient hyper élevés et les mecs n'étaient pas en train de lever des fonds. Donc moi, je trouve que la boîte est géniale. Je leur dis, laissez-moi investir. Ils me disent, ouais, mais comme on ne cherche pas de fonds, si tu veux vraiment investir, ok, mais on te fait payer cher. Et je trouve la boîte tellement géniale que je dis, ok, à 80 millions, j'y vais. Et je fais investir avec Google, on investit 500 000 dollars. un an plus tard, donc enfin un an et quelques mois plus tard, là en octobre 2023, donc le mois dernier, alors que les valos dans le monde entier ont été divisés par à peu près 4 ou 5, hein, les valos, tu regardes le Nasdaq, a été divisé par 4, donc normalement 80 millions, elle devrait en valoir 20, puis si elle a fait un peu de croissance, elle devrait en valoir 30, 40, 50. Il lève à une valo de 160 millions, donc il double la valo en un an, alors que les valos ont fait diviser par 4, ça veut dire que c'est comme si c'était multiplié par 8, et il lève, mais pas un petit peu d'argent, il lève 25 millions d'un coup, mais pas comme ça, mais auprès de Google. Donc voilà, tu vois, ça, ce genre d'histoire, tu te dis, bon, bah voilà, les mecs, en un an, quand les valos sont divisés par 4, ils doublent. Ils prennent 25 millions de Google. Donc, si tu veux, eux, ils sont déjà à 160 millions de valos. Donc, ils n'ont plus qu'à faire x 6 et ils sont une licorne. Ils vont le faire à mon. J'ai pas de boule de cristal, je répète toujours ça à mes membres, j'en sais rien. Mais qu'ils deviennent une licorne dans un an ou deux, ça me paraît vraiment pas déconnant. Donc voilà, on en a plein des histoires comme ça. Ça, c'est un exemple qui est vraiment cool et qui vient d'arriver récemment. Voilà.
Ouais. Et deux petites questions aussi. Quand t'as si tu as une sortie. Alors dans le club c'est différent, mais si t'as une sortie, du coup chacun récupère sa mise et sa plus-value, ou il y a un système de réinvestissement qui se fait?
Non, toute sortie est définitive. Quand on sort, chacun récupère sa mise et sa plus-value. Ouais.
Parce que là, on est d'accord que sur le club, chacun investit. Ah non, t'as quand même la société, donc oui, mais t'as une société par startup.
Il y a une société par deal. Donc effectivement, s'il y a un exit, l'argent il remonte dans la holding. La holding, elle distribue l'argent à tous les investisseurs et la holding est fermée instantanément. Et donc après, chacun est libre de réinvestir dans Léonis ce qu'il veut ou dans le fond. Hein. Mais ça repasse par chez toi. Et si tu veux t'acheter une maison, tu achètes une maison. Si tu veux partir en vacances, tu pars en vacances. Ouais.
Et sur le fond, ça, j'imagine que c'est pas la même chose. C'est l'inverse. Hein, c'est que tu as un fond qui porte tous les investissements.
Tu as un fond qui porte tous les investissements. Mais pour le coup, on a choisi, c'est au choix, de ne pas faire ce qu'on appelle le recycling. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent, on pourrait le remonter dans le fond et le réinvestir. Ouais. J'ai choisi de ne pas faire ça. Okay. Et donc, s'il y a de l'argent qui remonte dans le fond lors d'un exit, ça revient directement chez l'investisseur aussi. C'est la même chose. Comme ça, tu récupères tes fonds au fur et à mesure directement.
Ok. Et l'autre question que j'avais, effectivement, bon, y a un peu la réponse dans ce qu'on vient de dire, mais ça veut dire que si moi, je veux rentrer par exemple dans le club, bah, faut que j'attende un prochain deal.
Oui, tout forcément. À fait.
Et si je veux rentrer dans le fond.
Il y en a un depuis aujourd'hui dans le club.
On peut en parler du coup ou... On est quoi là? On est le 22 novembre.
Ouais. On est le 22 novembre. Mais ouais, alors déjà, bon, heureusement que ça va paraître plus tard parce que j'ai pas encore appuyé sur le bouton envoyer. Donc les membres, ils vont dire quoi? J'ai pas reçu. On peut en parler et pas en parler. Je peux t'en parler un peu. Je peux pas te dire le nom de la boîte et trop de choses. Mais si tu veux, on peut l'évoquer, bien sûr. Oui.
Ouais, même sans peut-être pas nommer la startup si tu veux, mais sur le process. Donc là, elle a validé ta grille de sélection. Tu décides de l'affecter plutôt côté club. Comment ça se passe ensuite?
Donc là, je suis en train d'écrire le mémo d'investissement, avec toutes les infos de qu'est-ce que c'est que ce deal, pourquoi il me plaît, pourquoi je le trouve génial, pourquoi j'investis, etc. Dans la soirée, là, demain matin, mais j'espère dans la soirée, l'envoyer aux membres du club par mail à tout le monde en disant voilà, il y a un nouvel investissement. Donc, comme je disais, hein, il y en a à peu près entre 12 et 15 par an des deals. Là, tu vois, on est le 22 novembre et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 16e deal de l'année. Donc, tu vois, on est vraiment là-dessus, on est à 16 en fin novembre, peut-être qu'en décembre, il y en aura 17, enfin voilà, c'est 15, 17. Bon. Parfois ça peut être moins de 15, mais voilà. Et donc j'envoie un mail à tout le monde en disant voilà, il y a ce deal. J'organise avec la fondatrice un webinaire demain soir. Donc là j'envoie le mail ce soir. Demain soir à 18h on est en live avec la fondatrice où tous les membres, ils auront lu ce que j'ai écrit. Ils peuvent venir lui poser des questions en disant ok, j'ai besoin de précision. Bon, ok, donc tout le monde est convié. Ils ont à peu près une semaine, petite semaine, pour se décider et dire ok, j'y vais pas. Donc tu reçois un mail, voilà le deal machin, tu vois la fondatrice, si t'es pas là en live t'as le replay, et ensuite tu dis je veux investir, je veux pas investir. Si tu veux investir, il y a un minimum à 1 500 € d'investissement, donc tu peux pas dire j'investis 200 €, c'est 1 500 €. Si tu me dis je veux investir 5 000 €, tu peux investir 5 000 €. Ça, donc t'as quelques jours pour te décider. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que t'as décidé ça, tu remplis un formulaire et tu reçois un mail avec toute la procédure. Donc je te dis voilà, connecte-toi sur la plateforme. La plateforme, c'est toujours la même, hein. La première fois tu crées ton compte, tu vas valider ton KYC, ton machin, ton passeport et tout. Signes les documents, donc les documents qui de la holding qui disent je deviens moi Alexandre investisseur de etc etc. Et ensuite on te dit le RIB de la holding, le compte américain, t'envoies ton argent et c'est tout. Donc tout ça peut être fait en moins de 10 minutes. La première fois, allez, 15, parce qu'il faut valider ton passeport. Mais après, c'est moins de 10 minutes. Tu consultes le truc, tu remplis le formulaire. Ok, t'es engagé. Tu vas sur la plateforme, tu signes tes documents. Donc, signer documents, c'est 3 clics. Hein, et t'envoies ton argent. Ton argent est reçu le lendemain. Tu reçois un mail, ton investissement est validé, terminé.
Ok. Deux questions. Parce que du coup, tu deviens associé d'une boîte américaine.
Oui, tout à fait.
Ok, ça pose pas de difficulté.
Indirectement, ensuite. Mais.
Bah oui, enfin, en tout cas, tu as une. Alors, je sais pas quel est le terme aux États-Unis, mais tu es associé quand même parce que tu as des bien actions sûr. Ou l'équivalent d'actions d'une boîte américaine.
Ouais, tout à fait. Il n'y a aucune conséquence. C'est comme. Ouais. Alors, je sais pas si tu as déjà acheté des actions Apple, Amazon ou Microsoft en bourse, mais tu es déjà associé d'une entreprise américaine, du coup.
Oui, donc, c'est
pareil. Okay. Il ne se passe rien. Voilà, tu as des actions d'une boîte américaine. Bon.
Ok. Et question, quand tu dis t'envoies à tout le monde, c'est qui tout le monde ? Est-ce que c'est, est-ce que moi demain, ou ce soir, quand t'envoies le mail, je peux avoir l'info ? Ou est-ce que ce club-là, il faut d'abord le rejoindre pour ensuite avoir les infos ?
Il faut d'abord rejoindre. Donc c'est tous les membres du club.
Okay.
Il faut rejoindre le club. Rejoindre le club, c'est pas très compliqué. En général, il faut me parler au téléphone. Tu peux le faire sans me parler d'ailleurs, mais c'est moins facile. Il faut bien trouver sur internet. Et il y a une adhésion pour rentrer dans le club. Donc tout simplement, il faut être effectivement membre pour recevoir les deals. Pour être membre, il faut payer l'adhésion, hein, c'est pas compliqué, c'est une adhésion annuelle. Tu rentres pour un an, tu payes ton adhésion. Au bout d'un an, ça te plaît, tu veux continuer, tu payes l'année suivante. Ça te plaît pas, tu peux sortir du club, c'est très très libre. Voilà, tout simplement.
Ok, et l'adhésion ? On parle de quel montant ?
Alors, j'ai fait l'erreur en 2018 ou 2019 de donner le montant de l'adhésion. Le montant de l'adhésion change régulièrement. Donc, je le donne pas parce que le podcast, il reste pour toujours. Et le montant de l'adhésion, lui, il varie. C'est pas un secret, hein, je peux te le dire en off et vous pouvez aller voir le prix sur internet, mais j'avais dit un prix dans un podcast et après ça avait augmenté, tout le monde me disait « Ah, c'est pas le prix du podcast voilà. ». Okay. Donc on est sur une adhésion de quelques milliers d'euros par an en général, voilà. Je peux dire ça tranquillement parce que d'ici à ce que j'aille à 10 000 euros par an, je pense que voilà, on a le temps. Okay. Peut-être un jour, voilà, peut-être que je vais aussi regretter d'avoir dit ça, mais voilà, on est sur une adhésion de cet ordre de prix. Voilà, ouais, tout simplement. Et encore une fois, hein, c'est pas un secret, hein, je te le dis avec plaisir, non, mais je préfère pas que ce soit enregistré, qu'on me le ressorte à l'infini après.
Et cette adhésion-là, concrètement, c'est pour payer ton temps, évidemment, tes outils, tes charges, etc. C'est ça, c'est pour filtrer.
C'est pour filtrer les gens sérieux, mais c'est pour payer l'accès à ces deals-là. C'est-à-dire que moi, je suis le seul en France, je suis le seul dans toute la France à avoir accès à ces deals incroyables de ce meilleur incubateur au monde. Et personne d'autre ne peut le faire et ne sait le faire. Et donc c'est premium si tu veux, c'est pour filtrer, pour payer toi pour avoir accès à ces deals là tout simplement. Effectivement moi ça paye mon travail, mon temps, les gens qui bossent pour moi, j'ai une équipe derrière qui s'occupe de gérer tout pour toi et tout, mais c'est aussi pour tu payes pour avoir l'accès à ces deals tout simplement. Ouais.
Ok, parce que bon, si tu me dis que tu as 700 membres à 3000 euros, ça fait quand même 2 millions quoi, donc ça veut dire que ça fait un beau salaire pour toi j'imagine. Non mais est-ce qu'il y a des coûts qu'on voit pas ou qu'on sait pas aujourd'hui ?
Bah il y a une équipe de 7 personnes qui travaillent.
Okay.
Derrière, qu'il faut payer. Ensuite, il y a 700 membres en tout dans le club qui ont investi avec moi, mais il n'y a pas 700 membres actifs aujourd'hui. Donc, les gens peuvent rentrer, sortir du club, revenir plus tard, etc. Donc, il n'y a pas 700 membres qui payent en même temps, en tout cas, pas pour le moment.
Okay.
Et donc, voilà. Mais par contre, effectivement, Léonis Investissement, c'est un business. C'est un business qui est rentable, enfin bénéficiaire. Et moi je vide ça tout en payant mon équipe bien sûr, voilà.
OK. Oui non, ça fait tourner le, enfin c'est une activité commerciale, enfin c'est ta boîte quoi. OK.
Exactement. Moi ouais, c'est mon business, ouais. Exactement.
Ouais, OK. Non, je veux dire t'es pas juste tout seul toi avec ton couteau aller chercher des startups, il y a une vraie enfin c'est structuré quoi effectivement. Donc ça se
ouais, tout à fait. Ça fait depuis 2017 donc j'ai eu le temps de structurer ouais. Exactement.
Okay, donc soit club, OK, tu payes ta cotisation, tu vois les deals passer, c'est toi qui choisis ça là m'intéresse pas, et puis tu mets à partir de 1500 ce dont tu as envie. Ça c'est assez clair. Toi après ça, il y a des frais de gestion, ou il y a des commissions de performance à la fin sur ce que tu as sur le deal, comment ça se passe une fois qu'on a investi ?
Bien sûr, ouais c'est important de parler de ça, donc il y a 20% de carry d'interest. Donc ce que fait tout le monde, donc je précise pour les gens qui ne connaissent pas, le carry d'interest, c'est effectivement sur la performance, sur la plus-value. Donc ça veut dire que si tu investis 10 000 euros et que tu ne gagnes rien, bah, il n'y a pas de frais. Mais tu investis 10 000 euros, tu gagnes de l'argent, donc disons tu vas gagner 100 000 euros. Sur les 100 000 euros que tu as gagné, alors ça veut dire que si tu as gagné 100 000 euros, je te renvoie 110 000 euros, hein, parce qu'il y a les 10 000 que tu avais investis et les 100 000 que tu as gagné. Sur les 100 000 que tu as gagné, là il y a donc 20%. De commission pour Léonis Investissement. Ça, c'est le fonctionnement vraiment classique que tout le monde a, tous les fonds d'investissement, tous les clubs, enfin, voilà, c'est normal, hein. C'est l'idée d'aligner les intérêts en disant, si je te fais gagner de l'argent, moi, je gagne de l'argent, et ça veut dire que mon intérêt à moi, Gabriel, c'est que toi, Alexandre, tu gagnes le plus d'argent possible. Donc, mon intérêt, c'est de te proposer les meilleurs deals possibles pour que tu gagnes de l'argent et que donc, moi, je gagne de l'argent aussi. Donc, ça, c'est un mécanisme qui permet vraiment d'aligner tout le monde. Donc, il y a effectivement 20% de carry d'intérêt, comme tout le monde. Et puis il y a des frais de création de holding. une fois. Donc tu demandais est-ce qu'il y avait des frais de gestion. Il n'y a pas de frais de gestion récurrents. Contrairement à beaucoup de clubs français qui sont obligés d'avoir des frais récurrents parce qu'en France, on a des frais récurrents. Nous, on a des holdings américaines qui ont des frais de création une fois, mais qui ensuite ne sont pas récurrents. Donc ce qui est plutôt avantageux pour nous, c'est moins cher. Donc on a des frais qui sont à 4% au moment de la création, mais qui ensuite, pour toujours, sont à zéro. Voilà. Ça, c'est du montant investi.
Est-ce que du coup, ça veut dire si je veux investir 100, il faut que je mette 104 ou si je mets 100, il y a 96 qui sont investis?
Ça veut dire que tu mets 100 et qu'il y a 96 qui sont investis, effectivement.
Ok, d'accord. Ok, c'est clair. Est-ce que tu disais au départ, au début, c'est que toi, tu quoi, investis à titre perso aussi dans tous les deals du club?
Ouais, tout à fait. Ouais, tout
okay.
à fait.
Ok. Ok, ça marche. Et si on regarde un petit peu l'autre côté, là, sur le fond, sur le mécanisme, ça commence qu'on rentre dans ce fond?
Alors, le fond, c'est un mécanisme de fond classique. Donc, pour rentrer dans le fond, là, pour le coup, c'est sûr qu'il faut me parler. Il faut se mettre d'accord sur un montant qu'on investit dans le fond. Et donc là, c'est vraiment... j'aime pas dire ça parce que ça veut pas forcément dire la même chose, mais j'appellerais ça de la gestion confiée. C'est-à-dire que grosso modo, on se met d'accord sur une enveloppe, tu me confies cet argent-là, et là, c'est moi qui l'investis pour toi. Donc c'est le même type d'investissement, mais t'as pas du tout besoin de t'en occuper, c'est hands-off, hein, comme on dit. Donc voilà, tu dis, bah Gabriel, j'ai vu ce que t'as fait par le passé, je sais que ça cartonne et j'ai confiance, vas-y. Voilà. Donc là, t'as une signature à faire au départ, un virement, et après c'est terminé, je m'occupe de tout pour toi. Et donc un investissement dans le fond, Lobster Capital, va t'exposer automatiquement à peu près 35 startups. Donc ça t'évite de 35 fois avoir à regarder les dossiers, signer les papiers, faire des virements, machin et tout. Donc voilà, c'est un peu différent, mais...
Ouais. Et sur le ticket d'entrée?
Le ticket mini du fond?
Ouais.
250 000 dollars.
Ok, donc c'est ça aussi.
Ouais,
c'est...
On est sur des plus gros investisseurs.
Ouais, ok. Oui, t'as peut-être... En fait, l'idée, à mon avis, enfin, moi, ce que je vois ça comme ça, hein, c'est que tu commences par le club, ça se passe bien, un jour, au bout de 10, 20, 15, 30 investissements, dans 2, 3 ans, tu dis, ok, maintenant, gestion passive, j'envoie une souscription. Exactement. Et tu dilues tes risques et tu récupères un peu de temps aussi, ce que tu as pu t'en occuper.
C'est une solution, effectivement, mais après, moi, j'ai beaucoup de gens qui adorent ce que je fais, mais qui ne veulent pas venir dans le club parce qu'ils n'ont pas le temps. J'ai des chefs d'entreprise pleins. Qui ont des centaines ou des milliers de salariés et qui me disent en fait, tu vois, ben là j'étais au téléphone tout à l'heure avec une chaîne d'entreprise qui va vraisemblablement venir dans le fond, justement parce qu'elle est rentrée dans le club il y a un an. L'année dernière, il y a un an, il n'y avait pas encore le fond, enfin, j'ai démarré ça en janvier. Et en fait, elle me dit, mais j'ouvre même pas les mails, j'ai pas le temps, j'ai raté les trois quarts des investissements, je le fais pas, machin, la plateforme, il faut se connecter, machin. Je lui dis, mais attends, tu viens dans le fond, tu fais un virement, une signature, on n'en parle plus. Elle me dit, bah oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, il y a une option de dire, tu viens d'abord dans le club, effectivement, on apprend à se connaître, on se fait confiance, et ensuite, demain, une fois que tu as vu mes investissements, on vient dans le fond, bien sûr, mais il y a plein de gens pour qui le club, ça correspond pas non plus. Donc, c'est vraiment des choses assez différentes. Voilà.
Et comment tu organises le fait que si quelqu'un rentre aujourd'hui en novembre 23 dans le fond, comment est structurée sa performance par rapport à ceux qui sont rentrés il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans?
Alors ça, c'est structuré dans la façon dont on constitue le fonds. Tout le monde est au même niveau. Donc ce qui est très intéressant pour les gens qui rentrent sur le fonds qui est déjà constitué, le fonds il a déjà fait 4 investissements. Donc les gens qui sont rentrés dans le fonds au tout début, le fonds avait fait 0 investissement. Aujourd'hui, le fonds a fait 4 investissements, tu peux les regarder. Et en rentrant dans le fonds, tu bénéficies automatiquement de ces 4 investissements. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que les 4 investissements, ils se portent à merveille. On en a déjà un qui est survalorisé. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu rentres dans le fonds, tu mets 250 000. À l'instant où tu signes les papiers, tes 250 000, ils valent déjà 300 000 grâce au deal qui a été survalorisé. Donc, c'est sur le papier, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est plus avantageux pour les gens qui rentrent en dernier, mais il faut qu'il reste de la place. Le fonds, là, moi, je l'ai lancé en janvier 2023. On est en novembre 2023. Il sera sursouscrit très prochainement dans quelques semaines, enfin, quelques mois, on va dire, mais pas quelques mois, genre 6 mois, beaucoup moins que ça. Et donc après, il n'y aura plus de place. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et donc c'est aussi premier arrivé, premier servi. Voilà.
Ouais. Bon, après ça, peut-être que tu crées un deuxième véhicule pour recommencer une nouvelle promo, on va dire, ou une nouvelle...
Je recréerai un deuxième fonds vraisemblablement derrière, mais avec un ticket mini qui sera plus à 250, mais à 500. Donc à chaque fois, ça monte. Donc ce sera encore plus difficile après pour des particuliers à atteindre, etc.
Oui, mais sauf que tout le monde aura fait une belle bascule entre-temps avec le club.
Ben oui et non, parce que là, je vais créer ce deuxième fonds probablement en 2024 et les bascules avec le club, elles se font pas du jour au lendemain. Donc voilà. Par contre, hein, ce qu'il faut bien comprendre, et je le précise pour tous les gens qui peuvent nous écouter, c'est que on l'a pas dit d'ailleurs, dans la Silicon Valley, ce qui est intéressant, c'est que tu peux multiplier ton investissement par 1000 ou par... Enfin, disons par 100 ou par 1000. Tu peux même multiplier par 10 000 dans les cas vraiment les boîtes comme Airbnb, Uber et tout, mais oublions les cas extrêmes, disons les cas normaux, tu peux faire entre x100 et x1000. C'est ça qui est vraiment intéressant. En France, ça n'arrive pas. En France, quand tu fais x4, c'est la folie, quoi. Donc, on l'a pas précisé, mais c'est hyper important. Mais ce qu'il faut aussi préciser quand on a dit ça, c'est que ça prend 5 à 10 ans, et probablement même 7 à 10 ans. Donc, ça se fait pas en un an ou deux. Tu vois, tu me dis, ah bah oui, 2-3 ans plus tard, les membres du club, ils ont fait une belle bascule. En fait, non. Enfin, encore une fois, ils peuvent avoir fait quelques exits au bout de 3 ans à x3. T'es content, t'as mis 5 000, tu récupères 15 000. Moi, c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. Moi, je fais ce métier-là pour le mec qui met 2 000 et il récupère 200 000. Mais par contre, ça existe. Ça arrive tous les jours dans la Silicon Valley. Ça arrivera certainement, je pense, dans Leonis. J'en sais rien, mais j'en ai la conviction. Mais ça arrivera pas le mois prochain. Ça arrivera sur le temps long. Voilà.
Ouais, oui. Oui, et puis on en profite aussi pour dire qu'on peut récupérer zéro aussi. C'est le risque du private equity. Il n'y a pas de garantie ni sur le capital, ni sur les gains, ni sur rien du tout. C'est un.
Voilà, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et faites vos propres recherches. Tu as raison, voilà. On peut le rappeler.
C'est dit, quoi. Je vois que le temps passe assez vite, hein, parce qu'on a déjà dépassé les 1 heure. On va essayer de tenir un petit peu les délais. J'avais quand même une dernière question pour toi, pour rentrer un petit peu dans ta tirelire, savoir ce que tu as, toi, aujourd'hui, en termes de répartition, de conviction, peut-être de plaisir aussi. Alors, on a compris que tu n'aimais pas les voitures, mais est-ce que tu as d'autres petites choses un peu plus exotiques que tu mets dans ta tirelire?
Alors, écoute, c'est une bonne question. C'est un sujet dont j'aime beaucoup parler et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai commencé à investir donc assez jeune, en 2013, donc c'était il y a 10 ans. J'avais un peu plus de cheveux. Ah oui, mais bon, ils n'ont pas la vidéo, c'est dommage, parce que j'en ai plus du tout. Donc, pendant des années, mon portefeuille ou ma tirelire, ça a été 100% startup, parce que j'adorais ça, etc. Et puis, les années passant, je me suis dit, bah attends, il faudrait quand même que j'essaie de construire un patrimoine diversifié avec différentes choses. Et donc, j'ai réfléchi en disant, OK, bah, qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, tu m'as posé la question, qu'est-ce que j'ai d'exotique? En fait, je n'ai pas grand-chose d'exotique. J'ai des choses assez classiques. Les choses les plus exotiques que je pourrais avoir, c'est un peu de crypto-monnaie. Mais tu vois, ce n'est pas très original non plus. Hein, je ne suis vraiment pas le seul. J'ai eu la chance, parce que je suis ingénieur, de comprendre très tôt ce que c'était que la crypto-monnaie et donc d'en acheter assez tôt et de toujours la garder. Hein, donc ça, comme j'ai commencé par les startups, ça m'a appris à investir toujours sur le temps long, parce que les startups, c'est 5 à 10 ans ou 7 à 10 ans. Et donc, quand je fais un investissement, hein, Warren Buffett dit, si vous n'êtes pas capable de garder une action pendant 10 ans, n'imaginez même pas la détenir pendant 10 minutes. Donc, j'ai acheté des cryptos très tôt et je ne les ai jamais vendus. Donc ça, c'est pas mal, c'était une bonne opération. Je ne suis pas un fou des cryptos, mais je pense que c'est intéressant et que ça a une petite place dans un ouais. Portefeuille. Donc ça, c'est peut-être le plus exotique. Et puis le plus exotique, j'ai un tout petit peu d'art. Il se trouve que j'ai un frère qui est artiste qui marche très bien. Et donc, je m'intéresse à l'art à travers lui. Et je trouve que l'art, c'est vraiment sympa. Contrairement aux cryptos, ça fait des siècles, des millénaires même, que l'art a vraiment une valeur marchande en tant qu'investissement. Donc, j'en ai un petit peu, c'est pas des folies et je suis pas un spécialiste, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. À côté de ça, tout ce qui est vraiment exotique, en fait, je suis souvent assez contre. Les montres, le vin, les Lego, je trouve que c'est pas mal de la connerie, entre guillemets. J'exagère, t'achètes une Rolex, bon, tu vas pas te planter normalement, mais ça m'attire pas du tout. Voilà, j'aime bien les montres. À titre perso, j'ai une belle montre, mais je le considère pas comme un investissement. Je considère comme vraiment un plaisir pour la porter. Je la vendrai jamais. Elle est à moi, et c'est pas du tout un investissement. Voilà, donc j'aime pas trop les trucs farfelus. Donc ensuite, pour terminer de te répondre, je partais de zéro. J'ai mis un peu de crypto, un peu d'art, et puis donc j'ai été sur deux autres piliers qui sont pour moi essentiels. Qui sont importants, c'est la bourse et l'immobilier. Donc, l'immobilier, bien sûr, il faut le faire. En France, on a la chance d'avoir des banques qui prêtent avec quasiment zéro apport, voire zéro apport. En ce moment, c'est un peu différent, mais j'ai commencé il y a un peu plus longtemps. Donc, j'ai fait beaucoup de 110%, hein, c'est-à-dire vraiment aucun apport et la banque te prête tout. Là, tu serais bête de dire non, quoi. C'est vraiment de l'argent gratuit. Donc ça, je l'ai fait pas mal, plus des résidences principales, plusieurs, en changeant, etc., en essayant d'avoir toujours mieux. Je pense que c'est hyper important de mettre le maximum de fric dans sa résidence principale, parce que moi je travaille de la maison, mais même si tu as un boulot, tu vas passer au moins la moitié de ta vie là. Je parlais tout à l'heure avec une entrepreneuse qui cartonne, vraiment une entrepreneuse très connue en France, etc., qui me dit je suis toujours locataire. Et je lui dis waouh, enfin voilà, c'est hyper important d'avoir son chez soi. Donc ça, je l'ai fait en immobilier. Et puis la bourse, qui est vraiment boudée par les Français, et je trouve ça tellement dommage. La bourse, c'est incroyable. C'est l'un des vecteurs d'enrichissement des particuliers les plus forts dans le monde. 7% des Français ont de la bourse, alors que 35% des Américains ont de la bourse. Et les Américains sont beaucoup plus riches que les Français, comme par hasard. Mmh. Et voilà, moi, j'adore la bourse. J'en ai fait vraiment beaucoup. Pas du tout boursicoté, attention, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Vraiment investissement long terme, Warren Buffett, bon père de famille, ennuyeux, etc. Mais aussi sur des actions technologiques. Hein, quand je dis bon père de famille, c'est pas forcément acheter Air Liquide. Des actions technologiques, tu vois, je sais pas, en Airbnb qui est en bourse ou qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien, Meta, Google, etc. Mais avec une vision vraiment long terme. Ça j'adore, je trouve que c'est vraiment dommage que les gens en fassent pas et c'est assez complémentaire. Après, tout à l'heure en off tu me disais qu'on pouvait rapidement parler des pourcentages. Je reste exposé à plus de 50% de mon patrimoine perso en start-up pour la simple et bonne raison que en immobilier, quand tu t'en sors bien, tu peux faire du à peu près 10%, et encore c'est en général avant impôt. En bourse, tu peux faire du 8-9% sur le S&P 500. C'est pas mal. En startup, moi, les performances que je fais avec Leonis Investissement sur les 20 millions qui en deviennent 50, donc pas sur 5 euros, hein, sur des millions, je suis entre 30 et 50% par an depuis plusieurs années. Mmh. Donc en fait, j'ai tenu ce raisonnement en me disant, aujourd'hui, je voulais diversifier, je voulais pas être que startup, je voulais avoir de la bourse, de l'immobilier pour répartir mes risques. Maintenant que j'en ai un petit peu, j'ai pas vocation à en avoir des tonnes. J'ai mon chez moi, etc. Bon, c'est pas payé encore, mais ça va se payer. L'argent supplémentaire que je gagne, est-ce que je continue à le mettre en bourse, est-ce que je continue à le mettre en immobilier? En réalité, puisque j'arrive à générer 30 à 50%, parce que, encore une fois, j'ai bossé pour avoir cet accès aux startups de la Silicon Valley, etc., j'ai pas d'intérêt de le mettre ailleurs. Donc, je reste très, très, très exposé aux startups je crois évidemment à ce que je fais. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai eu le temps de voir beaucoup de résultats et de voir que si tu peux faire 10% d'un côté ou 30% de l'autre, tu fais 30% évidemment. Voilà.
Ouais, bon, c'est aussi assez rassurant de voir que ton expertise a une place importante dans ton patrimoine. Hein. Sinon, ce serait peut-être inquiétant. L'inverse serait inquiétant.
Mais si je te disais, j'ai aucun argent dans les startups, tu te dirais ouais. Merde, il y croit pas. Problème. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ah ouais.
Non, mais du coup, c'est assez logique. Mais aussi, je trouve que tu as ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au micro. Souvent, je me dis, ouais, c'est pas très organisé, c'est pas très rationnel. Il y a une partie, forcément, une expertise professionnelle qui se ressent dans le perso. Mais bon, le tout, c'est d'avoir un patrimoine assez équilibré avec, les convictions, notre savoir, une grande place, puis un peu d'immobilier, un peu de bourse et un petit peu d'autres choses. Donc, c'est assez, ça me paraît assez bien équilibré, pour une
ouais.
fois.
Après, les startups, c'est difficile aussi de compter parce que est-ce que tu comptes l'argent que tu as mis à la base ou combien ça vaut aujourd'hui? Et dans tous les cas, par contre, tu ne peux pas le récupérer. Donc, c'est une partie du patrimoine qui est aussi un peu bâtarde, si je puis dire, dans le sens où tu as des plus-values latentes, parfois énormes. Tu vois, moi, j'ai une boîte sur laquelle, je peux raconter l'histoire, elle est folle, j'en ai fait une vidéo YouTube, j'ai investi 5 000 $ et aujourd'hui, ça vaut 600 000 $. Donc, c'est complètement fou. Sauf que je ne peux pas vendre. Donc, ça peut très bien demain aller à zéro. Donc, comment tu comptes ça dans ton patrimoine, en fait? Tu comptes à 5 000, tu comptes à 600 000, tu comptes à zéro. C'est un peu particulier. Donc, c'est pour ça que je voulais pas avoir que ça non plus. Il faut bien avoir un peu d'argent disponible, de réserve, de secours, de machin et trucs. Donc, voilà.
Ok, top. Bon, en tout cas, merci pour toutes tes réponses, tous tes éclairages. C'est assez passionnant d'ouvrir un petit peu les frontières avec quelque chose qu'on connaît localement, mais qui en fait se passe un petit peu différemment dans d'autres pays et avec des potentiels assez énormes. En tout cas, ceux qui ont écouté, ceux qui veulent creuser, je vous encourage évidemment à aller voir Leonis Investissement pour le club et le fonds Lobster, parce qu'il y a, je pense qu'il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. De toute façon, pas y aller tout seul, parce que si on y va tout seul, on fait ça à l'émotion et c'est la meilleure façon de se planter.
C'est clair. Donc tout le monde le fait à l'émotion et surtout, il ne faut pas faire ça. Ouais. Pas d'émotion dans l'investissement, c'est clair.
C'est bien de le faire une première fois pour se planter et voir qu'en fait, il ne faut pas recommencer. Donc, c'est parfois un passage obligatoire, mais si on peut éviter une étape trop émotive et du coup, erreur ou surréaction ou pas le bon dossier, autant se faire accompagner et deux, peut-être rejoindre un club aussi, ce qui est sympa de partager avec d'autres personnes, de voir des webinaires, d'intégrer un écosystème. Je trouve ça aussi, c'est sympa de pas être tout seul dans l'aventure.
Ouais, tout à fait, ça fait des rencontres. Effectivement, on a des événements en ligne, on a des événements physiques à Paris, etc. Donc c'est vrai, ça fait rencontrer d'autres investisseurs.
Ok, cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bravo déjà pour avoir monté tout ça, de transmettre, de partager, de co-investir, de faire ça en équipe. C'est quand même assez sympa de voir des gens qui, en tout cas, qui ont une volonté et qui le partagent, qui ne gardent pas toutes les infos pour eux. Je trouve ça toujours assez sympa. Et puis, je vais aller me renseigner un petit peu sur le club
Avec plaisir.
La cotisation.
Avec plaisir. Bah, si, je peux te le dire, hein, dès qu'on coupe, je te le dis, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour être très de rien, et merci de m'avoir reçu et je suis content effectivement de partager ce que je sais de façon très transparente. J'y trouve aussi mon intérêt, évidemment. Hein. J'ai à la base créé ça, on en parlait tout à l'heure, pour moi-même pouvoir accéder à ces deals-là. Moi-même aujourd'hui, quand on est dans des boîtes du Y Combinator à qui je promets 200, 300, parfois 600, 700 000 dollars, tout seul, je serais incapable de faire ça. Et donc, ça me permet moi aussi de me positionner sur des très beaux deals. Donc voilà, tout le monde y gagne finalement.
Bah, c'est parfait, c'est vertueux, nickel. Bon, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup et puis sûrement à bientôt du coup pour essayer de se croiser en vrai dans un autre cadre.
Merci Alexandre.
Merci. Salut Gabriel, merci. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcasts. À très vite pour un nouvel épisode.